Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
On apprend ce matin qu'il y a des employés d'organismes publics comme Investissement Québec, Hydro-Québec, qui ont maintenant accès à des services de télémédecine privée. Donc, les chanceux n'ont pas à aller à clinique sans rendez-vous, à essayer de lancer des signaux de fumée à leur médecin de famille pour les voir, ou à se faire dire « allez à l'urgence pour une prescription ». Ils peuvent rencontrer quelqu'un en ligne qui va les aider pour certains problèmes. Donc, tant mieux. Les gens vont peut-être dire « tant mieux, ça fait du monde de moins dans les salles d'attente ». Pourtant, il y en a d'autres qui disent « ouais, fais-moi de médecin aussi dans les cliniques ». Anne Plourde est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Madame Plourde, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Vincent Foisy.
Juste Foisy, ça va être parfait. Sur cette nouvelle-là, là, de la télémédecine privée aux employés d'organismes publics, qu'est-ce que ça vous dit?
Ben, on trouve ça un peu troublant, surtout quand on sait l'impact que le développement de cette industrie-là peut avoir là, sur le système public de santé. Faut savoir que l'industrie de la télémédecine, puis là, juste préciser qu'on parle d'industrie privée de la télémédecine, là, c'est pas la télémédecine en elle-même qui pose problème. Évidemment que d'étendre la couverture publique de la télémédecine aux employés du secteur
au public, population
générale, là, oui,
c'est que dans le fond, on a des cliniques qui engagent des médecins de façon privée, puis ils disent, ben nous, pour chaque consultation, ça coûte, je sais pas moi, 50$ ou 100$, puis vous pouvez avoir accès à un médecin ou à une infirmière spécialisée comme ça, puis au lieu de payer directement la consultation, on vend des services à des entreprises, là.
Ben c'est ça. Dans le fond, c'est des plateformes web, des plateformes virtuelles qui vendent des services médicaux, des services infirmiers, des services de santé mentale en ligne, soit en vendant directement à des individus en échange d'un paiement, mais la plupart du temps, ça passe par une assurance collective là, d'un employeur ou encore un régime d'avantages sociaux là, offert par un employeur à ses employés. Puis là, ben cette industrie-là de la télémédecine, ce qui se passe, c'est que depuis le début de la pandémie, elle a connu une croissance extrêmement rapide. On parle dans certains cas là, d'entreprises qui ont connu des croissances de leur chiffre d'affaires qui vont jusqu'à 500% parfois. Donc, des croissances très rapides. Et ça, évidemment, ben ça vient avec un recrutement de personnel. Hein, parce que pour être en mesure de donner ces services-là, les entreprises doivent évidemment embaucher des médecins, des infirmières, des psychologues, etc. Ça se traduit dans l'augmentation aussi très rapide de leurs dépenses en rémunération. Dans certains cas, on a vu des augmentations des dépenses en rémunération jusqu'à 900% en 2 ans à peine. Donc, ces entreprises-là sont engagées vraiment dans des processus de recrutement massif. Et ça veut dire des médecins, des infirmières, des psychologues qui ont moins de temps ou qui n'ont plus de temps pour travailler dans le secteur public parce qu'ils vont donner une partie de leurs heures ou encore la totalité de leurs heures là à une industrie privée auquel ce n'est pas l'ensemble de la population qui a accès. Il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui a accès.
Mais moi, je peux pas m'inscrire à ça.
Ben, en fait, si vous avez les moyens financiers
de payer pour les
services sur le plan individuel, vous pouvez, il y a certaines entreprises qui offrent le service aux individus. Donc, les individus qui ont les moyens de payer peuvent avoir accès à ces services-là, ou encore les personnes qui ont la chance d'avoir un régime d'assurance collective qui couvre ces services-là. Mais il faut savoir qu'au Québec, en ce moment, il y a 40% de la population qui a aucun régime d'assurance collective auprès de leur employeur. Et aussi, ces personnes-là qui n'ont pas d'assurance collective, ben ce sont en forte proportion des personnes âgées. Ce sont aussi des personnes souvent plus défavorisées sur le plan socio-économique. Et donc, ce sont des gens qui, typiquement, ont davantage de besoins en services, en santé, services sociaux, mais qui n'auront pas les moyens de payer ou qui n'auront pas la capacité d'avoir accès à ces services-là. Et ces personnes-là, si on ponctionne les employés du secteur public, ben vont avoir plus de difficultés à obtenir les services, en fait, dans le secteur public. C'est ce qu'on craint un peu, c'est que le développement de cette industrie-là ponctionne les ressources du secteur public et rend plus difficile l'accès pour l'ensemble de la population dans le secteur public.
Mais en même temps, c'est du monde qui n'ont pas à consulter dans le secteur public. T'sais, si c'est un médecin qui permet à, je sais pas moi, 50 personnes ou 20 personnes par jour de pas aller dans une clinique, à un moment donné, il y a un gain pour les cliniques aussi de pas avoir ces clients-là.
Ben, c'est le même médecin, en fait. Faut savoir qu'on est en contexte de pénurie de personnel aussi. En ce moment, on le sait, hein, dans tous les secteurs au Québec, mais c'est particulièrement criant dans le secteur de la santé et des services sociaux. Donc, le médecin qui va choisir de donner quelques heures par semaine à une entreprise à but lucratif, ben, c'est des heures qu'il pourra pas donner dans le secteur
public. Mais si c'est des heures de plus, tu sais, s'il donne son 40 heures au public, puis après ça, il donne des heures au privé, sur son temps parce qu'il veut faire plus d'argent.
Ben en fait, les médecins sont payés à l'acte, donc ils sont pas payés à l'heure. Là. Donc, toutes les heures...
Je comprends, mais mettons qu'un médecin se dit, moi, je donne une quarantaine d'heures à la clinique ou au GMF ou machin, mais j'en donne un peu plus parce que je veux m'acheter un chalet cette année ou je sais pas trop. Là. Ils peuvent faire... À un moment donné, il y a pas quand même un gain à avoir que si le médecin le faisait juste pas, ça irait mieux.
C'est sûr qu'on peut se demander si les médecins vont travailler plus d'heures en allant travailler dans le privé, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'heures au nombre d'heures que les médecins peuvent travailler dans le secteur public. Là. Donc, les heures qu'ils choisissent de donner au privé, c'est des heures qu'ils pourraient choisir de donner au secteur public et donc à l'ensemble de la population. Alors que quand ils choisissent d'aller le donner dans le secteur privé, ben ils choisissent en fait de donner ces heures-là à une proportion de la population qui est celle qui a les moyens de payer pour ce service-là ou encore qui a la chance d'avoir une assurance collective. Et c'est peut-être pas cette proportion de la population-là qui a le plus besoin d'avoir accès à ces services-là. Donc, ça pose des problèmes d'équité dans l'accès aux services. Et c'est ça qu'on veut dire là, quand on parle des risques de développement d'un système à deux vitesses. Ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont davantage de moyens financiers ou une meilleure situation d'emploi vont pouvoir en quelque sorte dépasser les autres dans la liste d'attente là, pour avoir accès plus rapidement à des services, alors que l'accès aux services sera pas déterminé par l'intensité des besoins. C'est pas la personne qui a les plus grands besoins qui va avoir accès aux services en premier, c'est la personne qui a les moyens de payer qui va avoir accès aux services en premier. Donc c'est là que ça pose des problèmes d'équité et même d'efficacité.
Avez-vous l'impression qu'on s'en va là-dedans? Tu sais, qu'on s'en va de plus en plus vers ça, puis qu'ultimement, dans 4 ans, le deux vitesses va être accepté parce qu'il y a une grosse partie de la population qui n'a tellement pas de soins dans le régulier qu'on est prêt à payer, puis tant pis pour les autres?
Ben, c'est un peu ce qui est à craindre, surtout que là, on a un gouvernement qui a choisi d'ouvrir grand la porte à cette industrie-là de la télémédecine privée. Il a choisi de faire ça aussi un peu derrière des portes closes. Là, il y a un décret réglementaire qui a été adopté un peu en catimini là dans les dernières semaines, qui est entré en vigueur le 1er janvier et qui vient, dans le fond, d'une part, étendre les services, la couverture publique aux services de télémédecine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le décret vient aussi permettre les assurances duplicatives et il vient aussi permettre la pratique mixte des médecins. Donc ça, c'est des termes techniques, là. Mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est deux fondements là, du système public au Québec qui ont été mis en place avec la loi de l'assurance maladie pour empêcher le développement d'un marché privé de la santé et pour s'assurer que toutes les ressources professionnelles soit mise à la disposition de l'ensemble de la population. Et là, le gouvernement vient ébranler ces espèces de garde-fous-là qui existaient dans la loi sur l'assurance maladie pour permettre aux médecins du régime public d'aller travailler dans le secteur privé en même temps qu'ils sont dans le système public en ce qui concerne l'industrie de la télémédecine. Et ça vient en fait contredire l'esprit de la loi sur l'assurance maladie. Là. Et donc, c'est particulièrement inquiétant qu'on fasse un changement aussi important sans qu'il y ait eu de débat public, sans que ça ait été soumis à la délibération collective. On est un peu devant une décision qui pourrait avoir des conséquences importantes là, pour la pérennité du système public et pour l'équité dans l'accès aux services.
Madame Plourde, merci d'avoir été là.
Merci, ça me fait plaisir. Au revoir.